Bonjour. Aujourd'hui, nous offrons une sélection de textes tirés des médias suivants, Liberté et Québec Science. Au programme, les continents de plastique, dans la tête des migraineux et le poisson lune, un étrange visiteur dans le Saint-Laurent. Bonne écoute.
Les continents de plastique, un texte de Elsa Beaulieu-Bastien, paru au printemps 2023 dans le numéro 338 de la revue Liberté. Elsa Beaulieu-Bastien est anthropologue, militante écoféministe, enseignante et éducatrice populaire. L'incroyable histoire d'un des mensonges les plus destructeurs de tous les temps. C'est l'histoire d'un mensonge dont les conséquences dépassent l'entendement. Elle commence au début du XXe siècle avec l'invention des premières matières plastiques, la bakélite en 1907, suivie du polychlorure de vinyle, PVC, en 1912, du cellophane en 1913, du plexiglas en 1924, du polyéthylène en 1933, du polyuréthane en 1937, du nylon en 1938, du polystyrène en 1944, du polypropylène en 1954, etc. Ces noms qui valent une fortune au Scrabble vous sont familiers. Les plastiques sont nos compagnons de tous les instants. Toutes ces inventions ont commencé à donner lieu à une production de masse à partir des années 1950 seulement. Et elle n'a cessé de croître. Avec 8,5% de croissance annuelle moyenne, elle est passée de 1,5 million de tonnes en 1950 à 367 millions en 2020. C'est le même genre de courbe exponentielle que celle de la consommation d'énergie fossile. Et c'est logique, puisque les plastiques sont produits principalement à partir du pétrole, du gaz naturel et du charbon. Aujourd'hui, il ne se trouve pratiquement plus d'objets, de textiles ou de machines qui ne contiennent pas de plastique. Voici comment le mensonge s'installe. Dès les années 1970, alors même que la compagnie d'eau Vittel vient tout juste de créer la première bouteille en PVC, la pollution par le plastique préoccupe déjà le public. Que fait alors cette nouvelle industrie en plein essor? Se laisse-t-elle couper les ailes? Que nenni! Pour pouvoir continuer de produire en paix et à l'abri des regards critiques, elle fabrique une stratégie d'une efficacité impitoyable dont nous payons le prix depuis. Première étape, détourner l'attention des agissements et des décisions des producteurs industriels et la rediriger vers les gestes individuels des consommateurs. Voyez, ce n'est pas d'hier. L'industrie crée un organisme à but non lucratif, à saveur environnementale, Keep America Beautiful, qui fait principalement des campagnes publicitaires. La plus fréquemment citée est celle où l'on voit des gens jeter leurs déchets par la fenêtre d'une auto et qui arbore le slogan « Ce sont les gens qui créent la pollution, ce sont les gens qui peuvent l'arrêter ». Dans le filon génie diabolique, on a rarement fait mieux. Tout le reste se construit là-dessus, pour les 50 années suivantes, et pas seulement en ce qui concerne le plastique. Le calcul de notre empreinte carbone individuelle, un indice créé par la British Petroleum, BP, en 2004, procède de la même logique. La deuxième étape de la stratégie est plus perverse encore et a eu, elle aussi, une nombreuse descendance. Inventer une fausse solution pour apaiser les inquiétudes du peuple et canaliser sa bonne volonté. Et j'ai nommé le recyclage. Une enquête menée en 2020 par NPR et PBS a révélé que l'industrie savait parfaitement, dès le début des années 1970, que le recyclage du plastique ne serait jamais économiquement viable ni techniquement satisfaisant, qu'il n'endiguerait nullement l'accumulation des déchets et surtout, qu'il ne diminuerait en rien la production de plastique neuf, qui resterait toujours moins chère et bien plus lucrative. Les principales campagnes publicitaires pro-recyclage des deux décennies suivantes ont d'ailleurs été financées par l'industrie Exxon, Chevron, Dow, DuPont, BP et consorts. 90% du plastique produit n'est pas recyclé. Il s'empile dans les dépotoirs, s'envole au vent et voyage dans les eaux des rivières et des fleuves. Les gens et les municipalités ont investi énormément d'efforts et d'argent dans l'organisation de la collecte des matières recyclables domestiques, et ce, jusqu'à aujourd'hui. Qui plus est, le recyclage est devenu le symbole par excellence de ce que veut dire « faire sa part pour l'environnement ». On recycle, on se sent bien. Notre job est fait. L'ennui, c'est qu'au-delà de la collecte, on n'a jamais réellement développé l'industrie du recyclage lui-même. Et pour cause, puisqu'on savait depuis le début que ce ne serait pas viable, impossible de collecter et de trier adéquatement, processus polluant, énergivore et coûteux, ne pouvant donner lieu qu'à des produits de moindre qualité. De toute façon, pour l'industrie, c'est inutile, puisque c'est la partie que les gens ne voient pas. Aujourd'hui, et surtout depuis que la Chine a cessé l'importation de nos déchets plastiques en 2018, la réalité est mieux connue d'un public averti, mais on continue de ne pas voir, ou alors de faire comme si. Moins de 10% du plastique produit est recyclé. Vous écoutez « Les continents de plastique », un texte de Elsa Beaulieu-Bastien, paru au printemps 2023 dans le numéro 338 de la revue Liberté. Voilà pour le mensonge. Maintenant, faisons un tour d'horizon de ces vastes conséquences écologiques. Depuis les années 1950, les déchets plastiques s'accumulent. En 2022, il y en a partout. 90% du plastique produit n'est pas recyclé. Il jonche les endroits où nous le laissons traîner, s'empile dans les dépotoirs où il contribue aux lixiviats toxiques qui contaminent les sols et les nappes phréatiques, s'envole au vent et voyage dans les eaux des rivières et des fleuves. Le 10e aboutit dans les mers. Qui n'a pas entendu parler de l'abominable continent de plastique composé de ces déchets divers et surtout d'engins de pêche abandonnés qui flottent au milieu du Pacifique Nord? C'est le plus connu et le plus gros. Il couvre une superficie de 3,5 millions de kilomètres carrés, soit un peu plus que celle de l'Inde. Mais il y en a quatre autres, dans le Pacifique Sud, l'Atlantique Nord, l'Atlantique Sud et l'océan Indien. Les animaux marins, grands et petits, qui se retrouvent coincés dans ces zones meurent dans des souffrances atroces. Les cinq plus gros contributeurs, selon l'organisation non gouvernementale The Ocean Cleanup, sont le Japon, 33,6%, la Chine, 32,3%, la Corée, 9,9%, les États-Unis, 6,5%, Taïwan, 5,6% et le Canada, 4,7%. Mais tout cela, c'est déjà connu. Ce qu'on découvre chaque jour un peu mieux ces temps-ci, c'est jusqu'à quel point les plastiques sont des poisons. D'une part, ils suent. Les substances toxiques qu'on a mises dedans pour leur donner différentes caractéristiques, c'est quand même extraordinaire qu'on y emballe nos boissons et notre nourriture. D'autre part, ils ne se décomposent pas vraiment, mais ils se dégradent et se désagrègent en morceaux de plus en plus petits. De macroplastique à microplastique, puis nanoplastique. Sous leur forme ultra-légère, les micro- et nanoplastiques se dispersent et voyagent partout. 70 ans après le début de l'explosion de la production, il y en a maintenant dans la terre, dans l'eau et dans l'air. Il y en a dans notre sang, dans nos organes, dans les animaux et dans les plantes qu'on mange. Oui, les nanoplastiques se retrouvent dans les corps des plantes. On en mange, on en boit, on en respire. Il en tombe avec l'eau de pluie partout sur la Terre, y compris, évidemment, dans les parcs de conservation et les aires protégées. Rien ni personne n'y échappe. Et, bien entendu, ces micro- et nanoplastiques sont toxiques pour les animaux dont nous sommes. Ils perturbent l'activité endocrinienne et le système nerveux, causent des cancers, etc. On commence à peine à gratter la surface de cet abîme de toxicité encore largement inconnu. Il vaut la peine de s'attarder un instant à l'effet des microplastiques dans les océans. Comment résumer une catastrophe d'une telle complexité et d'une telle ampleur? Tout d'abord, les océans gouvernent la vie sur Terre. Le poumon de la planète qui nous fournit notre oxygène de 50 % à 75 % et qui capte le carbone, 30 % n'est pas la forêt amazonienne. Ce sont les océans, principalement à travers le phytoplancton et le zooplancton. Or, les microplastiques ont ceci de particulier qu'en plus de dégager les toxiques qui les composent, ils agissent comme de petites éponges auxquelles collent les autres contaminants dissous dans l'eau, de petites bouchées de poison hyper concentrées dont se nourrit le plancton et qui l'empoisonne, et par le fait même tous les autres animaux de la chaîne. Alors, non seulement les oiseaux et les animaux marins plus gros ingèrent-ils directement des méso-morceaux de plastique qui les empoisonnent et leur bloquent l'estomac, mais même lorsqu'ils mangent de la vraie nourriture, celle-ci est un concentré de plus en plus puissant de contamination. Bien entendu, la pollution plastique et chimique n'est pas la seule menace à la vie océanique. Il y a aussi la surpêche, le réchauffement et l'acidification, et bien d'autres menaces encore, comme la ruée vers l'extraction de minéraux rares du fond des océans. N'empêche, la contamination plastique est une menace immédiate et gigantesque à la vie marine et, sans la vie marine, sans effet du climat et sans effet de nous. Bien sûr, il faut faire quelque chose. En mars dernier, il s'est négocié sous l'égide des Nations Unies l'idée d'élaborer un traité mondial sur la pollution par le plastique. Maintenant, on travaille à s'entendre sur le type de traité, la manière d'en décider, etc. Exactement comme pour les négociations sur le climat, les gros producteurs de plastique, les pays, mais aussi l'industrie elle-même, qui est invitée à la table, s'arrange pour ralentir, voire bloquer le processus. La tragédie, c'est que cette pollution mortelle est chose faite. Le plastique déjà dispersé est irrécupérable. À ce stade-ci, la seule chose intelligente à faire, c'est d'arrêter la production de plastique, de nous en passer. Avant le plastique et avant les énergies fossiles, nous vivions différemment, mais nous vivions. Alors, si nous voulons continuer, il va falloir le faire sans objet de plastique. Nous vivrons quand même avec le plastique et sa toxicité, puisqu'il y en a déjà dans l'air, le sol et l'eau. Mais, au moins, la quantité cessera d'augmenter. Nous aurons une chance, bien entendu, se passer du plastique, le matériau le plus malléable de tous les temps, auquel on peut donner n'importe quelle forme et n'importe quel niveau d'élasticité ou de dureté, n'est pas une mince affaire. La question de ses usages dans le domaine médical, par exemple, est particulièrement épineuse. Par ailleurs, les problèmes liés à l'extraction minière font en sorte que nous ne pourrons pas nécessairement remplacer le plastique par du métal. Il va nous falloir trouver ensemble des réponses collectives à de nombreux dilemmes. Mais, en ce moment, le mensonge perdure et la production débridée se poursuit. Celle-ci va d'ailleurs continuer de croître, puisque c'est une des réponses stratégiques des pétrolières à la réduction anticipée de la demande en combustibles fossiles. Les gens veulent faire leur part pour le climat. Qu'à cela ne tienne, pour maintenir leurs profits, les pétrolières prévoient d'augmenter la production de plastique. Les nouvelles usines ou extensions d'usines pétrochimiques à cette fin sont en construction. Vous l'aurez compris, On ne peut pas laisser faire ça. Ne nous laissons plus berner. Résistons. C'était « Les continents de plastique », un texte de Elsa Beaulieu-Bastien, paru au printemps 2023 dans le numéro 338 de la revue Liberté.
Dans la tête des migraineux, un texte de Marine Corniou, paru le 21 octobre 2021 dans le magazine Québec Science. Les étranges symptômes visuels qui précèdent parfois les crises de migraine inspirent les artistes et les écrivains depuis des siècles. Lorsqu'elle avale le gâteau, Alice grandit et grossit. Lorsqu'elle boit la potion, son corps rapetisse jusqu'à devenir minuscule. Le monde lui paraît étrange, peuplé d'objets mouvants ou dédoublés. L'espace et le temps sont distordus. Ce qu'expérimente l'héroïne d'Alice au pays des merveilles, après avoir chuté dans le terrier du lapin blanc, n'est peut-être pas étranger à son créateur, Lewis Carroll. Il aurait ressenti ce même vertige, ces mêmes hallucinations, à l'occasion de crises migraineuses. Rien de très inhabituel. Ce type de signe neurologique transitoire qui affecte la vision précède de quelques minutes à une heure le mal de tête chez presque un tiers des personnes souffrant de migraines, une maladie chronique qui touche environ 10 % de la population mondiale. Cet avant-goût de crise, qu'on appelle aura, se traduit le plus souvent par des points lumineux scintillants, des zigzags brillants ou des taches floues ou aveugles. Mais des sensations anormales, des troubles langagiers ou moteurs peuvent également survenir. Même si Lewis Carroll n'a mentionné ses migraines dans son journal que tardivement, après la rédaction de son célèbre roman en 1865, il aurait bel et bien souffert de ses auras visuelles à plusieurs reprises dans sa jeunesse. C'est du moins ce que soutient le médecin Klaus Podol dans son livre « Migraine Art », « The Migraine Experience from Within » 2008, qui rassemble plus de 300 illustrations et dessins créés par des migraineux du monde entier. Pour ce professeur de psychiatrie de l'Université d'Aix-la-Chapelle en Allemagne, les techniques d'art pictural représentent parfois le meilleur moyen pour les patients de communiquer leurs expériences et de raconter leurs symptômes. D'ailleurs, l'art migraineux, qu'il soit littéraire ou pictural, ne date pas d'hier. Klaus Podol suggère dans son ouvrage que les auras et leurs motifs géométriques auraient pu inspirer certaines peintures rupestres du Paléolithique. Une théorie difficile à vérifier, mais pas improbable. On trouve des témoignages de céphalées à travers l'histoire, l'un d'eux dans un poème sumérien datant de 3000 ans avant notre ère. Un bon nombre de malades a donc vécu, au fil des âges, ces expériences invalidantes, mais potentiellement belles pour ceux qui possèdent la fibre artistique ou une inclination mystique. Ainsi, les visions annonciatrices de crise auraient influencé le mathématicien et philosophe Blaise Pascal, 1623-1662, qui aurait pu les interpréter comme le signe d'une présence divine. Idem pour la religieuse Hildegarde de Bingen, compositrice et femme de lettres du XIIe siècle, que beaucoup de neurologues contemporains, dont Oliver Sacks, soupçonnent d'avoir souffert de migraines avec aura. Elle a raconté et peint ses visions dans un ouvrage, le Chivias, qui comporte de nombreuses miniatures aux motifs dentelés typiques. Ce n'est toutefois qu'au XIXe siècle que la science s'est enfin penchée sur les auras. Le médecin britannique Hubert Airy, lui-même sujet aux migraines, a représenté ses hallucinations dans une célèbre image publiée en 1870 dans les Philosophical Transactions of the Royal Society. On y reconnaît les créneaux ressemblant à des fortifications, bordant des arcs de cercle qui bougeaient et s'amplifiaient pendant la vingtaine de minutes que duraient ces symptômes. Si le phénomène est encore mal compris, ces auras semblent se produire lorsqu'une vague électrique anormale parcourt les neurones du cortex visuel, mettant la vision hors circuit. Cette dépression corticale envahissante, qui se traduit par une hyperpolarisation des neurones suivie par une baisse de leur activité, a pu être observée par imagerie fonctionnelle chez des patients en crise. Sylvie Hill, écrivaine, poète et blogueuse pour l'organisme Migraine Québec, a un souvenir traumatisant de sa première aura. Citation : J'avais 12 ans, c'était le matin et j'ai été aveuglée, comme éblouie par de la lumière. Je ne trouvais plus mes mots, j'avais une sensation d'engourdissement. C'était effrayant. Fin de citation. 17 quarantenaires qui souffrent de migraines liées au cycle menstruel. Aujourd'hui, ces auras sont uniquement visuelles et ressemblent, citation, à de l'eau qui bout au ralenti, à une sorte de plasma qui s'étend progressivement dans le champ de vision. Fin de citation. Elle n'épuise aucune inspiration particulière. Citation, les auras peuvent complètement dominer votre vie. Fin de citation, dit celle qui planifie toutes ses sorties en fonction de son cycle menstruel. Mais elle comprend qu'on puisse y voir de la beauté. Citation, certaines personnes ont une stratégie d'adaptation positive face à la migraine. L'art migraineux est très cathartique, il permet de mettre en image le chaos. Et c'est aussi un bon outil éducatif pour que la société comprenne mieux ce que sont les migraines. Fin de citation. C'était « Dans la tête des migraineux », un texte de Marine Cornioux, paru le 21 octobre 2021 dans le magazine Québec Science.
Le poisson lune, un étrange visiteur dans le Saint-Laurent. Un texte de Jean-Pierre Sylvestre, paru le 14 mars 2023 dans Québec Science. Le poisson lune ressemble à un tronc ou à une grosse tête circulaire munie sur le dessus d'une longue nageoire dorsale et en dessous d'une autre longue nageoire ventrale. À l'arrière de ce corps, la nageoire caudale est formée par une bande ondulée allant de haut en bas. Il adore les bains de soleil et il n'est pas rare qu'on le voie couché à l'horizontale, à la surface, pour se faire réchauffer. D'ailleurs, son nom anglais est sunfish, le poisson soleil. Cette photo a été réalisée au large d'Halifax en 2018. Photo Nick Hawkins, Nature Picture Library. Des poissons-lunes en cavale se retrouvent parfois dans le Saint-Laurent. Qui sont-ils? L'été dernier, des passants ont découvert le cadavre d'un poisson-lune gisant sur la plage de Métis-sur-Mer en Gaspésie. Imaginez leur surprise devant ce gros animal énigmatique. Le poisson-lune commun, ou mole, mola mola, n'est pas un poisson communément rencontré dans les eaux froides du Saint-Laurent, et pour cause, c'est une espèce pélagique des mers tropicales, subtropicales et tempérées. Pour autant, ce poisson géant n'en est pas à sa première visite dans les eaux canadiennes. Les pêcheurs du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse en capturent à l'occasion, les premières observations ayant été rapportées dans les années 1940. Quelques échouages ont aussi été signalés dans le Bas-Saint-Laurent au fil des ans. Une carcasse a été découverte sur une plage de Bonaventure en 2013. Amphibia Nature l'a mesurée. Le spécimen faisait 2,46 mètres de la nageoire ventrale à l'extrémité de la nageoire dorsale. Les observations semblent toutefois s'y multiplier.
En 2015, la biologiste Lynn Morissette, chef d'une mission scientifique à bord du voilier Rotter Sand, observe par deux fois des poissons-lunes nageant dans le Saint-Laurent, tandis qu'un individu s'échoue à trois pistoles. En 2017, des pêcheurs font état de plusieurs observations dans l'estuaire et le golfe. En août 2019, un poisson-lune de 2 mètres de long est observé par des naturalistes lors d'une patrouille dans les eaux côtières du parc national de l'île Bonaventure et du Rocher Percé en Gaspésie. En novembre 2020, une carcasse de 142 kilos est découverte sur une plage de l'île du Prince-Édouard. Laura Bourque, pathologiste vétérinaire du Réseau canadien pour la santé de la faune, a effectué une nécropsie et estimé que le poisson avait succombé à une hypothermie. Pour certains spécialistes, la présence accrue de ce poisson dans nos régions serait associée au réchauffement climatique. Ce dernier pourrait avoir un rôle à jouer, selon Martin Ouellet, vétérinaire pour le groupe de recherche Amphibia Nature. Mais une autre explication, toute simple, est probable. Les poissons-lunes doivent manger beaucoup de méduses et le Saint-Laurent semble riche en la matière à certaines périodes, surtout à la fin de l'été et en automne, soit exactement quand on a des observations. C'était le poisson-lune, un étrange visiteur dans le Saint-Laurent. Un texte de Jean-Pierre Sylvestre, paru le 14 mars dans Québec Science.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Robert Chartier, Jocelyne Langevin et Gilbert Lepage. À la lecture, Jean-Sébastien Laliberté, Francine Thériault et Evelyne Séverin. À la recherche, Nicolas Wartman. À la présentation et au montage.